Lettre 60e. Continuation de la précédente. Berry Hill, le 10 août. Vous vous plaignez de mon silence, ma chère Miss Mirvan. Mais que voulez-vous que je vous écrive? Je n'ai point d'événement à vous marquer, et mon imagination n'est pas assez vive pour suppléer aux défauts des matières. Aujourd'hui, cependant, j'ai de quoi étoffer une lettre, puisque j'ai à vous rendre compte d'une conversation que j'eus hier avec M. Villard. Nous avions déjeuné ensemble et, depuis mon retour, je ne me rappelle pas d'avoir passé une heure aussi gaie. Après le repas, il ne se retira pas dans son cabinet selon sa coutume. Il continua à discourir avec moi pendant que je travaillais, et vraisemblablement il ne m'aurait pas quitté de toute la matinée si nous n'avions été interrompus par la visite d'un fermier qui venait lui demander conseil au sujet de quelques affaires domestiques. Ils sortirent l'un et l'autre. Dès que je fus seul, ma pauvre tête s'aperçut de l'effort qu'elle avait fait pour soutenir la conversation et je me sentis fatigué. Je laissai là mon ouvrage et les bras appuyés sur la table, je m'abandonnai à nouveau à mes réflexions que j'avais réussi à endormir pendant un moment. À ce calme succéda une tristesse involontaire qui s'empara de toute mon âme. J'étais dans cette attitude quand M. Villard entra dans la chambre. Je ne lui avais point entendu ouvrir la porte et je le vis tout d'un coup devant moi, me fixant d'un air attentif. Je me recueillis au plus vite, et en me levant avec précipitation, je m'écriai « Le fermier Smith est-il parti, monsieur ?»« Ne vous dérangez pas, » me répondit-il gravement. « Je retourne tout de suite dans mon cabinet. »« Vous ne resterez donc pas avec moi, comme je l'espérais ?»« Comme vous l'espériez. Était-ce effectivement ce que vous attendiez ?» Cette question était trop inattendue pour que je pusse y répondre d'abord. Mais lorsque je vis qu'il se disposait à s'en aller, je le suivis, et je le suppliai de demeurer. « Non, me dit-il avec un sourire forcé, non, ma chère, je ne veux point troubler vos méditations. » Je fus bien plus décontenancé, et pendant que je cherchais à lui répondre, il sortit. Mon cœur l'accompagna, mais je n'eus point le courage de le suivre. L'idée d'une explication amenée d'une manière si sérieuse m'épouvanta. Je me souvins des soupçons que vous aviez conçus au sujet de mon inquiétude présente, et je craignais que M. Villard ne l'interprétât de même. Seul et pensif, je passai le reste de la matinée dans ma chambre. J'essayais de paraître gai au dîner, mais M. Villard lui-même était sérieux, et je ne pus suffire seul à la conversation. Dès qu'on eut desservi, il se mit à lire et je m'assis dans une croisée. Je crois y être resté près d'une heure. Toutes mes idées roulaient sur le moyen de dissiper les doutes de M. Villard, sans l'informer des circonstances qu'il me coûtait tant de lui avoir cachées. Mais, tandis que je formais ainsi mon plan pour l'avenir, j'oubliais le moment présent et j'étais tellement absorbé dans l'objet de mes spéculations que je ne fis nulle attention au mauvais effet que devait produire mon air rêveur et distrait. Enfin, après un moment de réflexion, je regardai autour de moi et je m'aperçus que M. Villard avait mis son livre de côté pour m'observer à son aise. Aussitôt, je revins de ma léthargie et sans savoir ce que je disais, je lui demandai s'il l'avait lu. « Oui, » me répondit-il après une petite pause. « Oui, mon enfant, je viens d'étudier un livre qui m'afflige et m'embarrasse. » Je compris de quel livre il prétendait parler, et vous sentez bien que je ne fus pas prompt à répliquer. « Qu'en pensez-vous » continua-t-il, « si nous lisions ensemble. Voulez-vous m'aider à débrouiller ce que le sujet a d'obscur ?» Je poussai un profond soupir, et s'approchant de moi, il me dit d'un ton ému, « Mon enfant, je ne saurais être plus longtemps témoin indifférent de vos chagrins. Vos soucis ne sont-ils pas les miens? Est-il juste, d'ailleurs, que vous m'en laissiez ignorer la cause, puisque j'en partage les faits? La cause, monsieur, et quelle cause, je vous prie? Je ne sais pas, j'ignore moi-même. Ne craignez pas, ma très chère Evelina, de vous ouvrir à moi. Parlez-moi à cœur ouvert. Je vous promets une pleine indulgence pour tout ce que vous me confierez. Avouez-moi donc quel est le sujet qui nous afflige réciproquement. Qui sait si je n'aurais pas à vous donner des conseils qui puissent adoucir vos maux? Vous êtes trop bon, monsieur, mais en vérité, je ne vous comprends pas. Je sens, ma chère, qu'il vous en coûte de vous expliquer. Je vais voir si je peux attraper votre secret en devinant. Monsieur, la chose est impossible. Personne ne devinerait, ne s'imaginerait jamais. Je m'interrompis brusquement, car je remarquais que par ce qui m'était échappé, j'étais convenu qu'il existait un secret à deviner. Heureusement que M. Villard ne prit pas garde à ma bévue. Mais que j'essaie, du moins. Peut-être suis-je meilleur devin que vous ne pensez, et si j'en crois les probabilités, je vous assure, ma chère, que je ne suis pas fort éloigné du but. Ah ça, sois de bonne foi, mon enfant, et parle-moi sans réserve. N'est-il pas vrai qu'après la vie tumultueuse et dissipée que tu as menée à Londres, la campagne te paraît aujourd'hui un séjour ennuyant, insipide ? Non, assurément. Je l'aime plus que jamais, et plus que jamais je désirais ne l'avoir point quitté. Oh, mon enfant, pourquoi ai-je consenti à ce voyage ? Ma raison s'y est toujours opposée, mais je manquais de courage pour tenir contre les instances qu'on me faisait de toutes parts. Oui, monsieur, j'aime reprocher l'indiscrétion avec laquelle je vous ai arraché votre consentement, mais j'en suis assez puni. Ces réflexions viennent trop tard. Tâchons seulement de nous épargner du repentir pour l'avenir et de tirer quelque utilité de nos fautes passées. Il prit alors un siège et m'invita de m'asseoir à côté de lui, puis il continua en ces mots. Que je poursuive mes conjectures. Regrettez-vous peut-être la perte des amis que vous avez laissés en ville? La privation de leur société vous fait-elle de la peine? L'idée de ne pas les revoir de si tôt vous chagrine-t-elle? Par exemple, Mylord Orville. Je ne pus plus rester sur ma chaise et me levai pleine de confusion. Non, mon cher monsieur, ne m'en demandez pas davantage. Je n'ai rien à vous avouer. Rien à vous dire. Et si j'étais pendant quelque temps plus sérieuse qu'à l'ordinaire, c'est uniquement par hasard. Je ne saurais en alléguer la raison. Vous faut-il un autre livre, monsieur, ou bien souhaitez-vous de reprendre celui-ci ? Il garda un silence absolu pendant que je faisais semblant de m'occuper à chercher un livre. Ensuite, il continua en poussant un soupir. Hélas, je ne le vois que trop. Mon Evelina m'a été rendue, mais je n'ai point retrouvé mon enfant. Ce mot me toucha vivement. « Oui, monsieur, » m'écriai-je, « elle vous appartient plus que jamais. Sans vous, le monde serait pour elle un désert et la vie un fardeau. Pardonnez-lui et daignez être encore une fois le dépositaire de toutes ses pensées. » Il n'y a qu'elle qui puisse savoir combien je désire sa confiance et quel est le prix que j'y attache. Mais de la lui extorquer, de la lui arracher, c'est à quoi ma droiture et mon amitié ne consentiront point. Je suis fâché d'avoir tant insisté. Laissez-moi, mon enfant, et tâchez de vous remettre. Nous nous reverrons vers l'heure du thé. Voulez-vous donc refuser de m'écouter ? Non, mais je ne voudrais point vous contraindre. Depuis longtemps, j'ai observé que vous aviez des chagrins. Je les ai partagés, et je me suis défendu de vous en parler, car j'espérais que le temps et l'éloignement de ce qui peut troubler votre repos amèneraient un changement. Mais hélas, votre affliction augmente. Votre santé se dérange. En un mot, vous n'êtes plus la même. Oh, ma chère Evelina, une telle altération fait saigner mon cœur. Faut-il que je voie mon enfant chéri, celle que j'avais élevée pour être l'appui de ma vieillesse? Faut-il que je la voie succomber elle-même sous le poids d'une douleur secrète? Faut-il qu'elle me cache ses soucis à moi qui devrais les partager? Mais retirez-vous, ma chère. Allez dans votre chambre. Nous avons besoin tous deux de nous remettre. Une autre fois, nous reprendrons cette conversation. « Ah, monsieur, » m'écriai-je d'un cœur pénétré, « souffrez que je reste avec vous. Ne me croyez pas dépourvu jusqu'à ce point de reconnaissance. »« Qu'il n'en soit pas question, » interrompit M. Villard. « Ce ne sont pas des reproches que je prétends vous faire, et je serais fâché que vous doutassiez un instant du droit naturel et légitime que vous avez à tout ce que je possède. Mon intention n'était pas de vous toucher. Je ne cherchais qu'à vous soulager. Mais l'inquiétude que je ressens moi-même m'a conduit trop loin. » Et j'ai eu tort d'insister avec tant de force. Consolez-vous, mon enfant. Le temps adoucira vos chagrins et tout ira bien. Il me fut impossible de retenir plus longtemps mes larmes. J'en versai un torrent. Mon cœur brûlait de tendresse et de reconnaissance, mais j'étais accablé de l'idée que je m'étais rendu indigne de ces sentiments généreux. « Monsieur, lui dis-je d'une voix étouffée, vous êtes la bonté même. Je ne mérite pas tant de faveurs. Je suis incapable de m'acquitter envers vous de ce que je vous dois. Mais du moins mon cœur sent le prix de vos bienfaits, et il vous en rend ses actions de grâce. Ma très chère enfant, je ne puis vous voir pleurer. Séchez vos larmes. Si c'est pour moi qu'elles coulent, ce spectacle m'afflige. Pensez-y, mon Evelina, et rassurez-vous, je l'exige. Eh bien, monsieur, ajoutai-je en me jetant à ses genoux, dites donc que vous me pardonnez, que vous pardonnez ma retenue, que vous me permettrez de vous ouvrir les pensées les plus secrètes de mon cœur. Acceptez la promesse solennelle que je vous fais de ne jamais vous manquer de confiance. Mon Père, mon protecteur, mon unique et mon meilleur ami que je chéris et que je respecte, dites que vous pardonnez à votre Evelina et elle s'appliquera à mieux mériter vos bontés. » Il me releva et m'embrassa tendrement. Il m'appela sa seule joie, son unique espérance sur la terre, l'enfant de son cœur. Il me serra dans ses bras, et tandis que je fondais en larmes, il tâcha de me consoler dans les termes les plus affectueux. Le moment où j'écartais cette réserve déplacée, que je m'étais follement imposée envers le meilleur des hommes, fut aussi celui où il me rendit toute son amitié. Le souvenir de cette réconciliation me sera cher à jamais. Revenu à nous-mêmes, nous reprîmes tranquillement nos places, et M. Villard semblait attendre l'explication que je lui avais fait espérer. J'étais extrêmement embarrassé pour entamer ce récit. Il vit ma confusion, et pour me l'épargner, il me demanda, avec le ton d'une aimable plaisanterie, si je voulais le laisser deviner encore. J'y consentis par mon silence. Je vous parlais tantôt, si je ne me trompe, du regret que vous devez avoir eu à quitter ceux qui vous ont fait à Londres un accueil si distingué. Il me semblait naturel que vous fussiez affligé de ne pas les revoir et de ne pas pouvoir répondre, suivant vos désirs, à leur amitié. De telles réflexions sont propres à faire impression sur un cœur aussi sensible que celui de mon Evelina. Vous ne me dites rien, ma chère. Voulez-vous que je vous nomme ceux que je crois mériter le plus vos regrets ? Je gardai toujours le silence et il continua. Parmi les personnes dont parle votre journal de Londres, il n'en est point qui paraisse dans un jour plus avantageux que Mylord Orville, peut-être. Je sais, monsieur, où vous voulez en venir, et j'ai craint longtemps que ce ne fût pas là l'objet de vos soupçons, mais je vous proteste que vous êtes dans l'erreur. Je hais ce Lord Orville. Il est le dernier pour qui je sois prévenu. Je m'arrêtai. Monsieur Villard me fixa avec un air de surprise qui me fit rougir. « Vous haïssez Mylord Orville ? » répéta-t-il. Et sans chercher d'autre réponse, je tirai de mon portefeuille la lettre que je lui remis. « Tenez, monsieur, voyez combien les écrits de cet homme diffèrent de son langage. » Il la lut et relut plus d'une fois avant que de parler, puis il ajouta. « Je suis tellement étonné que je ne sais pas ce que je lis. Quand avez-vous reçu cette lettre ?» Je le lui dis, et il la parcourut encore une fois. Il n'y a qu'une seule excuse à alléguer en faveur du Lord, il faut qu'il ait été pris de vin lorsqu'il a écrit cette singulière lettre. Mylord Orville pris de vin, lui, capable d'un excès? Mais oui, monsieur, il n'y a rien que je ne croie de lui. Je ne puis concevoir qu'un homme dont la conduite a été marquée au coin de la plus grande délicatesse, qu'un homme qui dans toutes les occasions a montré les sentiments les plus estimables, ait pu se résoudre à insulter aussi ouvertement et aussi insolemment une jeune fille pleine de modestie. Mais ma chère, vous eussiez dû mettre cette lettre sous enveloppe et la lui renvoyer sur le champ. Un tel ressentiment aurait été digne de votre caractère et l'aurait mis en état de justifier le sien. Je suis sûr qu'en relisant son billet le lendemain, il en aurait été honteux et aurait reconnu sa faute. En effet, ma chère Marie, pourquoi cette idée ne m'est-elle pas venue ? Une pareille démarche aurait pu m'avaloir les excuses de Mylord Orville. Et m'épargner des humiliations qui toutes retombaient à sa charge. Il est vrai qu'en adoptant la conjecture de M. Villard, le Lord aurait eu la peine à se rétablir dans la haute opinion que j'avais eu la faiblesse de prendre de lui, puisque l'aveu de son intempérance l'aurait mis à mes yeux au niveau du commun des hommes, mais du moins mon orgueil aurait été satisfait. Supposez que Mylord Orville m'ait écrit effectivement dans un instant où il n'était pas le maître de toute sa raison. Dois-je être encore sensible à son offense ? Tandis que j'ai pour moi l'approbation d'un vieillard respectable qui ne connaît le vice et ses excès que par où y dire. Sa bonté et les éloges qu'il a bien voulu me donner me rendent le courage et me consolent infiniment. Votre indignation, me dit-il, est une preuve de votre vertu. Vous vous êtes représenté Orville comme un homme sans défaut. Tout semblait annoncer son mérite, et vous avez cru que son caractère répondait à ce que les apparences en promettaient. Innocente et sans fraude, pouviez-vous prévoir ses artifices ? Vos espérances ont été trompées, et vous en avez été d'autant plus affligé que vous vous attendiez peu à une pareille révolution. Ces paroles resteront gravées dans mon esprit. Elles me serviront de consolation et d'encouragement. La conversation que je viens d'avoir avec M. Villard m'a sans doute beaucoup affecté. mais elle contribuera à dissiper mes chagrins. La réserve est l'ennemi du repos, et dans quelque faute que je puisse tomber à l'avenir, je ne me permettrai plus de dissimuler. Je voue à ma chère Marie et au digne Monsieur Villard une confiance sans bornes. Quoique je me sente actuellement soulagé, il s'en faut pourtant que je sois tel que je devrais être. J'ai mis bien du temps à écrire cette lettre. Dans peu vous en recevrez, j'espère, de plus gai. Adieu, ma douce amie. Je vous prie surtout de laisser ignorer nos secrets à Madame votre mère. Elle veut du bien à Mylord Orville, et ce n'est point par moi qu'elle doit prendre combien peu il mérite l'honneur qu'elle lui fait.